créativité, les relations amicales, l'amour, autant de sujets qui nous posent question à tous et on se retrouve chaque mois pour parler de tout ça avec des invités qui savent de quoi ils parlent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi toi. Et aujourd'hui, j'accueille Clément et Louise qui vont nous parler de leur voyage. Salut Clément, salut Louise.
Salut Cynthia.
Ils vont nous parler de leur voyage. Ils sont partis pendant un an voyager à travers l'Amérique du Sud depuis la Patagonie jusqu'à la Colombie sur des vélos pliants. Et ils vont nous raconter tout ça aujourd'hui.
Et oui.
Alors c'était il y a combien de temps ?
Il y a plus d'un an.
Il y a plus d'un an, on est revenu, oui. Donc, on est parti
11 mois.
On est parti le 9 octobre 2023.
Ok. Et ce projet, il s'est mis en place comment Comment vous avez choisi de faire ce voyage? Comment s'est mis en place le projet?
Alors, je crois qu'à la base, c'est une histoire de compromis, de choix et de volonté. Moi, ça fait longtemps que je voulais partir en Amérique, du Sud ou même Amérique du Nord. J'avais en tête déjà le vélo.
Tu voulais traverser les Amériques?
Oui.
Tout le continent?
Oui, j'avais en tête un idéal de traverser tout le continent de l'Alaska jusqu'à la Patagonie, un peu vraiment à la route. Et puis Louise, on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, un peu plus, 5 ans et demi. Et puis...
Moi, j'avais envie de voyager en sac à dos en Amérique du Sud.
Voilà.
Et le vélo, c'était pas du tout un projet pour moi.
C'est vrai. Et du coup, à force de discuter, on a fait le compromis de choisir que l'Amérique du Sud.
Ouais.
Et puis après de partir en vélo. Et du coup, vélo pliant qui était là aussi un bon compromis pour ne pas dépendre à 100% du vélo et pour pouvoir plier le vélo et se déplacer un peu autrement aussi en bus ou en stop. Donc on n'a pas fait que 100% de vélo.
Okay. On a fait, je crois, 8000 km à vélo. On a une petite différence de 1000 km parce qu'au bout d'un moment, moi, je flippais de pédaler. Du coup, Clément, il faisait sa vie à vélo. Moi, je prenais des bus. Donc au début,
ça a permis ça aussi.
Ouais. On était tous les deux à fond. Mais ouais, à peu près 8000 km sur peut-être 15 000 de distance parcourue au total. Donc on a effectivement pris pas mal de bus, quand même fait du stop aussi. Et les petits vélos pliants, c'est une idée de Clément parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs à vélo qui partent avec des vélos pliants. Quoi. D'habitude, les gens, ils sont super équipés avec des vélos un peu plus costauds.
Ouais. Et...
Mais du coup, ils font tout en vélo.
Mais bah, ils font tout ou presque. Ouais. Après, on peut toujours faire du stop ou prendre un bus avec un vélo, mais c'est plus complexe. Quoi.
C'est plus exceptionnel en tout cas. Alors que là, nous, il y a des moments où tous les jours, on pliait le vélo et on prenait un bus, même si c'était une petite portion. Donc il y a eu quand même beaucoup de moments où si on avait eu un gros vélo, ça aurait été plus complexe. Donc ça a été une vraie réflexion hein, parce que c'est vraiment... On a fait un voyage dans la montagne avec des routes parfois difficiles. Donc le type de vélo qu'on a pris était vraiment peu commun. Et pendant un an, du coup, j'ai réfléchi au vélo, je me posais des questions, est-ce que c'était un bon choix et tout ça.
Ouais, franchement, on n'était pas sûr de notre projet juste avant de partir. On se disait, est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que c'est pas ridicule presque de partir avec des vélos comme ça? Est-ce qu'ils vont pas se casser?
Alors du coup, pour expliquer, les vélos que vous avez choisis, c'est des vélos pliables, mais vraiment très pliables. C'est-à-dire qu'ils sont pliables
C'est des vélos Brompton, donc c'est des vélos très communs, on va dire. C'est des bons vélos pliants. Mais qui sont faits de base pour la ville.
En fait, c'est les vélos qu'utilisent les citadins dans les grandes villes pour prendre le métro.
Et qui ont des petits trous, donc
qui
ne sont pas forcément...
Voilà, qui ont vraiment des petits trous.
C'est des roues de 18 pouces, je ne sais pas si ça parle.
Oui, nous, oui. Alors de base, un Brompton, ça a des roues de 16 pouces, mais nous, on a un peu modifié...
C'est genre un vélo pour enfants, en fait.
On a un peu modifié le vélo, justement, pour pouvoir un peu l'adapter à un voyage plus au long cours. Mais à la base, c'est la base du cadre et tout ça, c'est vraiment pas fait pour ça.
Et ça se plie du coup en trois.
Oui, ça se plie en trois.
C'est comme s'il se pliait en deux, puis on rabat une partie. Donc en fait, une fois qu'il est plié, ça fait à peu près la taille d'un bagage cabine. pour donner une idée. Donc on avait une grande housse, elle aussi pliable, on avait beaucoup de choses pliables pour la logistique, et on pouvait mettre notre vélo dans la housse. Donc en fait, quand il était rangé, on ne voyait pas que c'était un vélo. Donc ça, c'était pratique pour prendre le bus ou autre, on l'avait sur l'épaule, quoi.
Et toi, Louise, au début, tu n'étais pas forcément super méga chaude pour le vélo ?
Non. Moi, je faisais du vélo une semaine l'été en vacances en bord de mer, quoi. Et déjà, je trouvais ça dur. Et c'est Clément qui m'a vraiment convaincue, en fait, parce que moi, ça m'inquiétait de projeter un voyage en vélo comme ça. Jamais j'aurais imaginé ça. En plus, j'avais mal aux genoux, j'avais des problèmes de genoux. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'en lisant des blogs, des forums, ça donnait envie, parce qu'en fait, ça permet une liberté qui est quand même exceptionnelle, le vélo. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de voyager, en réalité, parce que tu es libre d'aller où tu veux, en allant relativement vite par rapport à la marche, où là, pour le coup, c'est encore autre chose. Et ça te permet d'adapter tes choix, de t'arrêter quand on a envie, d'aller dans des petits endroits qui ne sont pas accessibles avec les transports en commun ou autre. Et Clément... ouais, t'as utilisé les bons arguments, alors je sais plus quels étaient les arguments en question, mais j'ai fini par me dire, ok, allez, on essaie.
Bah l'argument principal du vélo pliant, justement, était que si à un moment donné, on était trop fatigué, voilà, on allait pouvoir plier le vélo, faire du stop ou prendre le bus.
Vous aviez d'autres alternatives.
D'autres alternatives, et c'est ce qui s'est passé réellement. Hein.
En fait, moi, je voulais pas être dépendante du vélo. Ça me faisait trop peur de me dire si je suis fatiguée, si c'est trop dur, si ça me plaît pas, j'ai pas d'autre moyen que de pédaler, quoi. Que là, avec le pliage du vélo, effectivement, on pouvait adapter tout comme on voulait, quoi. Okay. Alors, on a eu des longs moments de stop sans personne qui passe, ça arrive aussi. Mais bon, dans ce cas-là, on remonte sur le vélo et la vie continue, mais... Mais ouais, ça permettait quand même beaucoup plus de flexibilité.
Et comment on fait ses bagages quand on part en vélo pendant un an en Amérique du Sud ?
On fait des tableaux Excel, rien d'oublier. Non, c'est pas vrai. Ouais, on a regardé beaucoup de blogs aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs, en fait, qui voyagent à vélo. Donc, il y a des traces sur Internet qui permettent d'aider.
En vélo, plus tu es lourd, plus ça va être difficile. Donc, il faut vraiment... prendre le moins d'affaires possible, donc vraiment faire des bons choix, pas de superflu.
Un slip, et c'est parti.
Non, mais voilà, donc. Mais pour le coup, il fallait quand même traverser tout le continent, donc traverser plusieurs climats.
Ouais.
On est allé aussi bien dans la jungle que dans des endroits où il y a des glaciers, à 5000 mètres d'altitude.
Toutes les saisons.
Donc il fallait prendre aussi bien des affaires chaudes que des affaires très légères, respirantes. Mais en un seul exemplaire et assez compact.
Puis on a fait beaucoup de randonnées aussi, donc il fallait des chaussures qui puissent tenir sur le long terme. Mais très minimaliste, hein, on n'avait pas grand-chose, mais chaque chose a eu son utilisation au bon moment, et on n'a pas manqué, et on n'a pas eu trop de choses. On en a perdu pas mal aussi.
On en a perdu, mais au final, on ne les a pas rachetées, donc peut-être qu'elles étaient superflues, celles-ci.
Donc non, on avait bien réfléchi quand même à l'équipement, et on était contents de ce qu'on avait.
Du coup, on est sur les vélos pliants,
oui.
Les vêtements, pour les différentes météos.
Dans le sac
qu'est-ce que vous aviez d'autre ?
Les vêtements dans le sac c'est tout, quoi.
Ouais, généralement, les voyageurs en vélo normaux, ils transportent ça dans des sacoches. Il peut y avoir des sacoches à l'arrière, sur un porte-bagage arrière, sur un porte-bagage à l'avant. Bon, maintenant, il y a plein de différents types de sacoches. Nous, sur notre vélo, on avait un vrai sac, un sac à dos, un sac à dos Décathlon. Et voilà, du coup, ça nous permettait aussi d'avoir toutes nos affaires dans un sac unique. Et donc, quand on pliait le vélo, on avait notre sac à dos sur le dos et notre vélo dans une sacoche à la main. Ce qui permettait de transporter à la main toutes nos affaires assez facilement. Sans avoir 40 sacoches plus d'autres affaires.
Enfin, après, on n'avait pas le sac à dos sur le dos en pédalant. Hein, bien sûr, il était installé sur le porte-bagages à l'arrière du vélo. Et devant, on avait une sacoche clipsée sur le cadre du vélo qui nous permet de transporter l'eau, la nourriture, les choses dont on avait besoin d'avoir l'accès rapidement. Donc voilà.
Est-ce que vous aviez emmené une tente, un truc comme ça ?
Oui.
Ouais, on était vraiment autonome. Donc on avait une tente, un réchaud, vraiment tout ce qu'on avait besoin pour être autonome Et alors même si on n'a pas dormi sous tente toutes les nuits...
On a passé à peu près un tiers de notre voyage sous la tente.
Ouais.
Le reste, c'était en auberge de jeunesse, hôtel, chez l'habitant, là où on trouvait, quoi, au fur et à mesure.
Ouais, voilà. Mais il y avait, c'est sûr que, par exemple, en Patagonie, où il n'y avait pas beaucoup de choix, pas beaucoup de villes, pas beaucoup de villages, donc c'est en Argentine, en Chili, dans cette partie-là, au sud, là, on était obligé d'avoir une tente... parce qu'il n'y avait pas d'autre option hein, pour dormir.
Oui, parfois on a fait des grandes traversées où il n'y avait rien ou très peu de choses. Donc là, on dormait sous tente et on avait tout, la nourriture pour 3-4 jours et on était en totale autonomie.
Ok, trop bien. Est-ce qu'il y avait des peurs autres que toi, Louise, le vélo, avant de partir? Est-ce que vous aviez un peu des peurs?
Moi, j'avais peur de plein de choses. Clément, je ne sais pas, toi, si tu avais des peurs.
Non, pas trop.
Moi, j'avais peur de tomber à vélo parce que je suis trop maladroite. Et je me disais, en fait, si je me blesse dès le début, le voyage, il n'est pas fichu parce qu'on se serait adapté. Mais quand même, ça a complexifié le projet, quoi. Bon, il n'y a pas eu de chute, heureusement. J'avais peur aussi de dormir en tente un peu. J'avais écouté un podcast sur les baladeurs juste avant de partir d'une nana qui s'appelle Isabelle Del Real, qui a fait une BD qui est super, qui voyage à vélo. Et elle disait justement qu'elle avait peur la nuit et tout, et je me reconnaissais vachement là-dedans. Et c'est vrai que les premières nuits sous tente, quand on était au milieu de nulle part, c'est des peurs un peu bêtes qui naissent la nuit, où on est un peu dans une zone d'inconfort.
Ouais, la peur de l'inconnu en plus, ouais.
Et en fait, très rapidement, je me suis sentie super à l'aise. Bon, en plus, on était deux, donc il y avait Clément, même si lui dormait profondément, on aurait pu se faire tuer, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, plus on avançait dans le voyage, plus je me rendais compte que, quand on est au milieu de la nature, on risque rien. Enfin, si, il y a toujours des risques, mais je veux dire. Au final, je me sentais plus en danger dans des endroits où j'aurais pas pensé avoir peur, alors qu'au milieu de la forêt, je me sentais hyper tranquille, quoi. Je sais pas, c'est très
globalement,
clair. Mais sinon, non.
Ici, on n'a pas vécu de moments de peur, de grandes insécurités ou de...
On n'a eu aucun bémol.
Globalement, le voyage s'est très, très bien passé, en fait. Alors, il y a peut-être une part de chance, dans le sens où, il y a d'autres voyageurs qu'on a croisés qui ont pu connaître des mésaventures, des mauvaises rencontres ou quoi que ce soit. Nous, on ne s'est pas blessé, on n'a pas été grandement malade. On n'a pas été volé ni quoi que ce soit.
Après, on était quand même assez vigilants, je dirais, au fur et à mesure. On demandait toujours conseil aux gens qu'on rencontrait. Est-ce qu'on peut prendre cette route? Est-ce qu'on peut dormir ici? Est-ce qu'il y a des zones où il ne faut pas aller? Donc au final, on était quand même alerte sur les endroits qui pouvaient potentiellement être dangereux. Et on utilisait une application aussi qui s'appelle... j'ai oublié.
iOverlander.
Ouais, merci. Où ce sont les voyageurs qui peuvent laisser des notes sur plein d'endroits. Donc ça peut être des hébergements ou des zones en pleine nature. Par exemple, une petite cahute abandonnée au milieu d'une forêt avec écrit « Ici, il y a une petite rivière qui passe, donc il y a de l'eau claire, on peut dormir sous l'abri, c'est sécurisé. » Et en fait, on laisse des petites notes aux futurs voyageurs qui passeront par là. Et du coup, on regardait beaucoup ça aussi. Et il y avait des endroits où il y avait écrit « endroit pas très safe », et donc dans ces cas-là, on n'allait pas chercher la bête noire, quoi. Donc on faisait attention quand même où on allait.
Ok. Et niveau chemin, est-ce que vous aviez tout prévu très précisément avant de partir? Votre cheminement, vos projets, ou est-ce qu'il y avait juste des points importants et après vous iriez où le vélo vous menait?
Alors globalement, on savait par quel pays en tout cas on voulait traverser. On avait les grandes lignes. Après, non, on n'avait pas prévu toute la route, ça c'est sûr.
On a improvisé quelques passages.
On a pas mal improvisé.
Et au gré
des rencontres. Ça dépendait aussi de l'endroit, parce qu'il y a des endroits, encore une fois, dans le sud, en Patagonie, sud du continent, il n'y avait pas 36 000 routes. C'est des endroits où il n'y a pas beaucoup d'options. Donc au final, beaucoup de personnes passent par aux mêmes endroits. Et puis il y a des grandes routes mythiques qui passent dans des parcs nationaux. Donc là, forcément, on voulait aller dans ces endroits-là. Et puis après, tout en remontant un peu plus vers la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, là, il y avait beaucoup plus de choix. Donc là, on a aussi improvisé.
Oui, c'était selon nos envies, selon les gens qu'on rencontrait qui nous disaient « Ah, on est passé par là, c'était incroyable, on n'avait pas imaginé, mais ça, on se laissait tenter par le projet. » Après, je dirais que la première partie, effectivement, plus la Patagonie, on s'était plus documenté. Donc on avait plus en tête les étapes. Et après, on se levait le matin, on ne savait pas où on allait terminer la journée, quoi, au fur et à mesure.
Oui. Globalement, on avait peut-être en moyenne 2-3 jours de vision devant nous. Mais ça dépendait vraiment.
Ça dépendait de s'il y avait beaucoup de points de chute aussi pour dormir. Parce que parfois, il fallait anticiper les points d'eau aussi. Il y a des endroits où il n'y avait pas trop d'eau. Donc ça, c'était une de mes peurs. Manquer d'eau. En fait, on ne manque jamais d'eau. Là, partout, il y a des humains. Partout, il y a des routes, il y a des humains. Et donc, il y a de l'eau. Donc, on s'en sortait. Mais par exemple, on a terminé notre voyage en faisant une traversée par l'Amazone en bateau. Et ça, ce n'était pas un projet qu'on avait initialement prévu. On imaginait éventuellement terminer le voyage en allant en Guyane, parce qu'on avait des proches là-bas. Mais passer par l'Amazone, ce n'était pas un projet. Et on a rencontré des gens qui nous ont parlé de ça, de cette petite traversée sur l'Amazone. Et on a choisi cette option et c'était un moment incroyable du voyage alors qu'on n'avait pas du tout projeté ça à l'origine. Donc ouais, quand même pas mal de changements, mais je crois qu'on ne peut pas en fait faire un voyage...
Oui, surtout quand tu pars en vélo.
Avec un projet fixé chaque jour, enfin si,
oui,
mais...
Oui, sur une aussi grande période.
Je pense que c'est ça qu'on cherchait en partant aussi.
Ça n'a pas de sens même de tout prévoir.
On avait envie d'être libre dans nos envies, dans nos choix, et puis le vélo c'était aussi... on n'est pas parti avec un objectif de kilomètres chaque jour, donc c'était selon comment on se sentait aussi, si on était fatigué, si on était plus enclin à pédaler beaucoup de kilomètres, et donc ça a influencé aussi pas mal.
Et puis comme on a fait aussi du bus... parfois, on s'avançait sur le programme. Enfin, il n'y avait pas de programme, mais disons qu'on avait
les grandes lignes.
Oui, sur des kilomètres, tout de suite en bus, tu gagnes une heure de bus et une journée de vélo.
Donc, oui, il y a un jour où il y avait énormément de vent, par exemple, de face. Donc, extrêmement fatigant, t'avances pas, c'est dur. On a fait du stop, on s'est super bien entendu avec la dame et on a fait peut-être 200 km avec elle et on s'est dit, ok, en fait, il vient de se passer 4 jours de vélo en 3 heures de van, quoi. Donc, ça changeait aussi en fonction de ce qui se passait dans nos journées, quoi.
Est-ce qu'on fait pas une petite pause musicale ?
Allez !
Est-ce que tu peux nous dire, Louise, ou peut-être Clément, vous nous avez choisi 3 chansons pour accompagner ce récit de votre voyage. Est-ce que tu peux nous dire la première que tu as choisie ?
La Flaca, c'est Jarabe de Palo, le groupe. C'est un groupe espagnol. Et on a découvert cette chanson en Patagonie. On est atterri dans un petit camping fait de briques et de brocs où il y avait un groupe d'Argentins qui chantait avec la guitare autour d'un feu. C'était bonne ambiance et à un moment donné, ils ont joué cette musique et il y avait 2 Espagnols qui étaient là, qui se sont mis à chanter aussi. Et c'était trop un beau moment. Et du coup, on a gardé en tête cette chanson. On l'a réécoutée un peu au fur et à mesure du voyage. Donc voilà, c'est un joli souvenir.
Va être chouette, on la réécoute tout de suite, La Flaca.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo de la flaca.
solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette chanson ?
Et cette chanson, bah, elle nous rappelle ce moment-là où on est arrivé dans ce camping à El Chalten, qui est à la frontière entre l'Argentine et le Chili, qui est un peu la Mecque de l'alpinisme, des balades, des randonnées en tout cas. Et du coup, dans ce camping, on a rencontré donc, ces fameux Argentins espagnols. On avait tout un petit groupe et puis on a fait un asado. Un asado, c'est un barbecue argentin. Donc c'est tout un rite un peu. Enfin, en tout cas, c'est la viande en Argentine, c'est vraiment leur aliment principal. Et du coup, l'asado, c'est le dimanche, c'est toute l'après-midi. C'est long en fait, c'est très long. Ils commencent à mettre la viande, déjà à faire le feu. Faire les braises, ça prend des heures et des heures, parce qu'en fait, ils font pas chauffer la viande juste au-dessus des braises comme en France, en barbecue. Ils font vraiment un feu sur le côté, et la viande, elle est au final assez éloignée du feu.
En fait, c'est le plaisir de faire durer la préparation. Mais du coup, nous, voilà, Français, on était là. Mais ça dure 6 heures, on pourrait faire cuire la viande en la mettant juste au-dessus.
Mais en fait, voilà, c'est pour que la viande cuise plus doucement. Et du coup, ça prend plusieurs heures à cuire.
C'est le plaisir de partager ensemble.
Voilà, pendant tout ce temps de cuisson.
Préparer les légumes pour accompagner et tout aussi.
Et puis il y a une festivité tout autour, ouais, j'imagine.
Ça. C'est ça. Et alors, voilà, nous, on a un peu découvert ça. Et puis, on boit du maté. En Argentine, en Uruguay, il y a le maté. Donc le maté qui est une plante qui peut ressembler un peu à du thé, que tu bois dans une calebasse et que tu partages.
Il y a aussi tout un rite autour
du
maté.
Oui, il y a tout un rite autour du maté où une façon de servir, une façon... ça se boit avec une paille en fer, en métal en tout cas, et qui est percée de trous pour faire passer l'eau, mais
pour filtrer
les herbes. Et voilà, il y a même un, il faut pas bouger la paille, il faut l'inclinaison de la paille, enfin faut pas la bouger dans la calebasse. Bref, il y a des
ouais, y a plein de règles.
C'est risqué de boire du maté.
Il faut pas dire non.
Faut pas dire merci. Ouais. Enfin, si tu dis merci, ça veut dire que t'en
oui,
veux
voilà,
plus.
Oui, voilà, c'est ça. Quand on te tend la calebasse pour que tu en boives, si tu dis merci, ça veut dire que c'est ton dernier tour de boisson. Donc après, on te la redonne plus. Sauf que nous, on était contents, donc on disait merci. Et après, on nous la donnait plus. Alors on disait mince, j'en voulais bien un peu encore. Et tout le monde boit dans la même paille, donc ça c'est pareil, ça peut être un peu perturbant. Mais c'est hyper chaleureux comme moment, le partage du maté.
Ouais, ouais, ouais. Et ça, on retrouve ça dans... Ouais,
en Patagonie,
dans,
beaucoup.
En Patagonie, en ouais. Argentine, Chili, Uruguay, énormément.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en Patagonie, on a été pas mal de fois invités de manière un peu fortuite chez les gens. Et le maté, c'était toujours un moment un peu sacré de... Ok, bon, avant toute chose, on va s'installer, on va partager
une
le maté.
Une petite cérémonie.
Et après, on parlera de vous, on parlera
d'introduction.
De nous. Et, ouais. C'était un peu le moment okay. de rencontre, quoi.
Chouette.
Est-ce qu'on peut repartir du point de départ? Du coup, vous partez le
9 octobre.
Octobre 2023.
Le 9 octobre, et vous partez où?
On Alors. Part de Paris et on atterrit à Buenos Aires, en Argentine.
Ok, et là vous arrivez avec vos petits vélos et c'est parti.
Et là on est frais comme c'est la rosée ça. Du matin. On a des habits impeccables qui ne vont pas tenir aussi longtemps, qui vont finir sales et percés et tachés.
On atterrit en effet à Buenos Aires. On reste quelques jours à Buenos Aires et après on va passer 15 jours, une quinzaine de jours en Uruguay qui est au final en face de Buenos Aires, où il faut prendre un petit bateau et on atterrit en Uruguay.
Oui, en fait, c'est une traversée en ferry de 1 heure ou 2. Et ça, c'est pareil, on ne l'avait pas prévu. Oui, en fait, on s'était dit, on irait bien faire un petit tour en Uruguay, mais on ne savait pas où, comment. Et donc, une fois sur place, on a décidé de pédaler vers l'est, puis vers l'ouest.
En Uruguay, oui. Ça, pendant une quinzaine de jours. Et après, on a rejoint en avion la Ushuaia, qui est... à la base, le point de départ de notre voyage qu'on avait imaginé. Donc Ushuaia, c'est vraiment au sud-sud du continent.
Ouais, c'est la côté, terre du bout du monde, un peu,
voilà,
on l'appelle.
C'est
ouais.
la terre de feu, donc c'est côté argentin. Et à partir de là, bah, il va falloir remonter toute la cordillère des Andes jusqu'à la Colombie. Donc on suit, globalement, on suit la cordillère des Andes, donc on suit les montagnes. Et donc on remonte l'Argentine, on passe au Chili, on passe plusieurs fois la frontière entre l'Argentine et le Chili, on va passer au moins 4-5 fois la frontière en faisant des allers-retours.
C'est pas compliqué de passer les frontières en Amérique du Sud avec un passeport français en tout cas, on n'avait pas de visa. Alors il y a une durée limitée dans chaque pays de séjour, mais on a pu traverser je crois 5 fois à peu près entre l'Argentine et le Chili, et c'est surtout qu'il fallait pas de légumes, et c'est le seul problème en
okay.
fait. On a dû abandonner nos carottes, etc. Mais,
c'est pas vrai.
Mais sinon, c'est hyper fluide en fait pour passer d'un pays à l'autre, donc ça c'était quand ouais. même facile. On pouvait aussi improviser en fonction des paysages qui nous intéressaient d'un côté ou de l'autre de la frontière.
Oui, du coup, on a remonté l'Argentine au nord et on est arrivé en Bolivie. Bolivie.
Alors la Bolivie, c'est un peu plus tard, c'est ça ?
Bolivie, c'est plus tard, du coup c'est plutôt en février 2024.
Ouais. Et comment ça se passe au tout début, là, Ushuaia, l'Argentine, comment ça se passe au niveau dodo?
Là on est surtout en tente. En fait c'est une partie du voyage qui est assez exceptionnelle parce qu'on a rencontré dès le début un petit groupe de Français et d'Israéliens, plusieurs groupes mélangés, mais on a formé une petite bande et c'était un peu comme une colonie de vacances. Pendant 2 mois on a pédalé ensemble, alors pas tous les jours. Mais comme le disait Clément tout à l'heure, il n'y a qu'une route principale. Donc en fait, on passe globalement tous par le même endroit. Et du coup, c'était un petit peu le jeu du chat et de la souris, parce qu'on avançait tous à des rythmes différents. Mais on se retrouvait tous les 2, 3, 4 jours. Donc on a fait pas mal de bivouac ensemble. Et vu qu'on n'avait pas de réseau, rien, on savait pas. On se disait, est-ce qu'ils sont devant? Est-ce qu'ils sont derrière? Est-ce qu'on va tomber sur eux aujourd'hui? Et c'était une chouette ambiance. On a partagé des jolis moments. Et on a fait notamment Noël, le Nouvel An avec eux. Donc là, c'était vraiment une ambiance de groupe.
Okay.
Donc en fait, on est partis tous les deux. Mais dès le début, on a été avec des copains.
Ouais, au bout de 15 jours, à partir d'Ushuaia, on a rencontré ces personnes.
Et on s'est suivis...
pendant un mois et demi.
Ouais, au Chili, en Argentine.
On a été, ouais, avec ce petit groupe.
Donc ça, c'était chouette. Et on garde encore des contacts avec eux. Enfin, ça a vraiment donné un autre visage au voyage qu'on avait imaginé, surtout au début, en fait. Donc en fait, on s'est retrouvés que tous les deux au bout de 2 mois.
Ouais.
Et c'était chouette aussi.
Trop bien. J'ai vu que des fois, vous dormiez dans des hôtels 5 étoiles, je mets des guillemets.
Oui, on a dormi dans des endroits un peu farfelus.
On a dormi dans des... pas mal de fois dans des maisons abandonnées, dans des hôtels abandonnés. Du coup,
on
là,
était avec
c'était...
des gens qui aimaient bien le goût du risque. Et on s'est un peu laissé porter par la mouvance de chercher des endroits abandonnés où on peut aller dormir. Donc, c'était un peu de l'urbex parfois, mais et ça me faisait super peur au début. Moi, je suis un peu une mauviette. Et finalement, c'était super confort d'avoir un toit abandonné quand il pleut ou qu'il neige ou qu'il fait froid.
Là, c'était vraiment dans une partie où il n'y avait pas grand-chose. Hein, donc, il n'y avait pas d'autre option. Et du coup, il fallait trouver un abri, surtout pour le vent, en fait, parce qu'il y a beaucoup, c'est une région où il y a beaucoup de vent. Du coup, la moindre petite cabane, eh ben,
ça se transforme en grand luxe.
Non, mais c'est presque ça. C'est, ouais. C'est un abri potentiel. Et du coup, une petite hutte, un petit abribus. Parfois.
Maintenant, on a des déformations. Parfois, je passe à côté d'un abribus en France et je me dis, oh, trop stylé cet abribus. On aurait été bien là-dessus.
On pourrait poser la tente.
Non, mais c'est vrai mais que c'est vrai, hors juste... contexte, voilà quoi. Mais quand on avait notre petite tente, effectivement, parfois il y avait du vent très fort. Et ben, juste le fait d'avoir 4 parois autour de nous, ça change tout quoi. La nuit, c'est plus silencieux, on est protégé, on a moins froid. Et on est tombé sur des petites perles, c'est vrai, tu parlais d'hôtel 5 étoiles, mais on nous en avait parlé, mais on a trouvé un ancien hôtel, c'était des petits cabanons en bord de lac, qui étaient complètement désertés, laissés à l'abandon. Et certaines étaient encore en état correct, et du coup on a installé notre tente sur le plancher, au sein d'un petit cabanon, ancien hôtel, au bord d'un lac. Et plusieurs fois comme ça, on est tombé sur des endroits, c'est vraiment de l'urbex pour le coup.
Ouais.
Après, on a dormi au fur et à mesure du voyage aussi, dans des écoles, dans une caserne de pompiers, chez des gens, dans une ferme, dans une étable de lama, sur un lit douillet de petites crottes de lama. Donc, dans plein d'endroits un peu originaux. Ouais. Mmh.
Donc ça, c'est la Bolivie et l'Argentine, c'est
ouais,
ça c'est fin 2023
plus Argentine.
C'est après, alors.
Chili. À partir de la Bolivie, on monte en altitude déjà. On est à 4000, 5000 mètres d'altitude. Ça change un petit peu. Donc, du coup, les paysages changent. On est encore plus dans les Andes. Donc, il y a même la culture change. Même il y a un aspect plus andin. Et il fait plus froid. Du coup, là, on passe peut-être un peu plus de nuit dans des hostels. Mais
oui, et puis c'est vrai que c'était très peu cher aussi en Bolivie de trouver une nuit dans un hôtel. Alors, hôtel...
Oui,
c'est vraiment du basique.
C'est pas le luxe. Hein,
ouais. Mais avoir une douche et un sommier, c'était phénoménal, quoi, quand on avait passé plusieurs nuits sous la tente dans le froid.
Ouais.
Et donc c'est vrai qu'en Bolivie, on a dormi souvent en dur, parce que ça coûtait pas très cher et qu'on était un peu fatigué aussi, parce qu'il y avait pas mal de côtes avec l'altitude. Puis à 4000 mètres d'altitude, c'est vrai que ça a été un peu dur, moi, l'altitude au début, de gérer le corps, il était pas habitué. Donc ça faisait du bien aussi d'avoir des toits. Puis on traversait pas mal de villes aussi, donc c'était plus facile aussi de trouver des logements dans les villes. C'est vrai que dans la partie sud, on était plus dans la pampa,
plaines.
Dans les plaines, donc là on dormait en tente. Et plus on montait, plus on traversait aussi des villes où du coup ça s'y prêtait plus pour trouver des logements.
C'est quoi la suite de votre périple ?
Donc la suite, c'est traverser de Bolivie, on arrive le long du lac Titicaca. Du coup après on traverse la frontière avec le Pérou. On arrive au Pérou, là, c'était la grande traversée du Pérou. C'est très, très divers, hein, ces paysages, parce que là aussi, au Pérou, on passe par donc les montagnes, on passe par des bouts de jungle, il y a des endroits un peu désertiques. On va même sur la côte du Pérou, donc la côte pacifique. Et ça prend 2 mois et demi, toute cette traversée du Pérou. Tout n'est pas fait en vélo, hein. Il y a des parties qui sont faites en bus, encore une fois.
C'est vrai qu'à chaque pays, enfin je m'égare un peu de l'itinéraire à chaque fois, mais il y a une richesse de paysages énorme entre parfois la mer, la montagne, la jungle, les plaines. Et du coup, on a voulu un petit peu découvrir chaque coin de chaque pays. Donc on a fait pas mal de zigzags sur notre itinéraire.
Mais on le voit sur votre Insta, je ne sais pas si on peut le donner, vous me direz, mais c'est
public.
Los Bromptoneros, en référence à vos vélos, du coup à la marque de vos vélos. Ouais. Et on voit en fait les paysages et chaque... Il y a une telle différence sur deux publis, de l'une à l'autre, qui sont assez folles. Il y a des paysages absolument sublimes. Ça fait partie, je pense, de l'intérêt de voyager en vélo aussi, c'est qu'on rate rien, en fait, de tous ces paysages.
Oui, on rate moins, en tout cas. C'est sûr que le trajet entre deux sites peut-être plus connus où vont les gens, bah nous on le fait en vélo et du coup bah entre ces deux points d'attraction plus connus, bah il y a plein de choses qui se passent et qui sont pas trop sur les guides et du coup
en
vélo évidemment bah le trajet fait partie du voyage donc on voit plus de choses. Après, évidemment, on ne prend pas toutes les routes, donc on ne peut pas se dire...
Il y a des milliards de possibilités.
Voilà, on voit quand même qu'une seule partie et qu'un trajet. Mais en effet, le vélo permet de profiter pleinement de toute la longueur des distances et de prendre son temps.
Ouais, c'était vraiment le but, la contemplation dans la lenteur, quoi. Et on parlait du Pérou tout à l'heure, on est allé sur la côte, encore une fois, c'était pas du tout prévu initialement. C'est qu'avec nos petits vélos, on a eu des pépins avec les roues, les chambres à air, etc. Donc on a fait une petite escale à Lima. Et voilà, c'est un exemple de plus comme quoi on n'avait pas du tout prévu d'aller à Lima à l'origine. Et finalement, on s'est retrouvé à aller sur la côte péruvienne et on a passé un chouette moment là-bas aussi.
Donc là, sur votre périple, on est où ? On est début d'année 2024 ?
Là, Pérou, du coup, ça dure 2 mois et demi. C'est entre mars et du coup mai 2024. Et après, donc à mi-mai, on arrive en Équateur. On va passer à peu près 1 mois en Équateur, entre mi-mai et mi-juin 2024. Donc Équateur, bien plus petit pays, mais aussi très, très divers. Un peu plus de jungle, on va dire, mais il y a aussi beaucoup de montagnes.
En Équateur, je crois que c'est là où on est passé de 3000 à presque zéro d'altitude en une journée.
Ouais, même 4000. De 4000
pour le coup,
on a descendu 4000 mètres d'altitude.
On les a pas montés, parce qu'on a pris un taxi.
Non, pas un taxi.
On avait fait du stop,
Non, c'est un bus, on avait pris un bus.
Mais ça, c'était assez phénoménal aussi de se lever à 4000 d'altitude et de faire que de la descente pendant une journée et d'arriver en bas 80... dans la chaleur alors qu'on avait froid la veille au stop.
80 km de descente. Et là, c'était vraiment beau parce qu'on était au-dessus des nuages.
Tu vois tous les différents biotopes, j'allais dire. Enfin, le paysage qui change quoi, au fur et à mesure de la descente. Mmh. Et on passait sous les nuages. Enfin, c'était fou, ce moment. Et c'est vrai que ça changeait du tout au tout en une journée, parfois, les paysages.
Ouais.
En Équateur, c'est vrai que c'était un condensé de plein de paysages diversifiés.
Du coup, Équateur, puis on arrive en Colombie. Donc Colombie, entre juin et début août, même mi-août 2024. Donc Colombie, là on arrive vraiment vers le nord du continent Amérique du Sud. Et on arrive jusqu'à l'océan Atlantique, enfin jusqu'à la mer des Caraïbes plutôt, plus précisément.
Et, là ouais, on a revu la mer et on s'est dit... Wow, on est parti du sud et on a réussi à aller jusqu'au nord.
Ouais.
Et c'est vrai que ça correspond à la dernière partie de notre voyage et on n'avait pas pris nos billets de retour quand on est parti. Et donc la Colombie, on y a passé pas mal de temps quand même parce qu'on n'était pas pressé. Enfin, on n'a jamais été pressé, mais là, je crois que ça correspond à peu près au moment où on s'est dit « Ok, on rentre dans tant de temps ». Et du coup, ça nous a permis de prendre encore plus le temps, je trouve, en Colombie. Je pense qu'on avait changé aussi en tant que personne. On était peut-être plus cool, plus... il n'y avait pas de pression du temps. Et... Enfin, moi, j'ai le souvenir de la découverte de la Colombie vraiment dans la lenteur encore plus, quoi.
Oui, on a passé deux mois en Colombie. On a vraiment fait tout un tour, tout un cercle. Et donc, à la base, on s'était dit on va repartir de Colombie. Mais au final, on n'est pas reparti de Colombie. On est parti de Guyane française. Et du coup, pour rejoindre la Guyane... eh ben, on a descendu l'Amazone, donc le fleuve Amazone. Donc on a rejoint une ville frontière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou, qui s'appelle Laetitia, côté colombien. Et du coup, à partir de cette ville, on a pris le bateau, un ferry, enfin oui, un bateau, sur le fleuve Amazone, pour descendre pendant une dizaine de jours, on a changé plusieurs fois le bateau, descendre le fleuve pour arriver jusqu'à la côte atlantique, donc à l'est, et puis remonter un petit bout, les quelques centaines de kilomètres, jusqu'à la Guyane. Jusqu'à la Guyane française.
C'était les derniers coups de pédale et nos vélos étaient usés. Ils n'en pouvaient plus.
Avant que vous nous racontiez la fin de votre voyage, on va faire une autre petite pause musicale.
Sabroson.
Allez,
vamos. Pris le bus en stop, ça nous a un peu fatigués parce que
ah
c'est
ouais
très fort tout le temps.
Mais c'est du chouette reggaeton, c'est sûr.
Du reggaeton ou des musiques un peu traditionnelles, mais très fort, très 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 fort.
Ah, moi j'aime bien.
C'est vrai que dans le bus parfois on était fatigués.
Ah, mais nous aussi on aime bien, mais pendant 12 ouais heures.
Puis quand t'es crevé, c'est vrai que.
Mais bon, c'était chouette, c'était l'ambiance.
Non-stop.
Mais c'est vrai que plusieurs fois on allait dans des campings et puis il y avait la fête au village et c'était la musique toute la nuit, on n'en pouvait plus. Mais...
Laissez-nous dormir.
Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait partie des souvenirs.
Ce qui est
aussi
surprenant aussi, c'est dans la rue, c'est que les magasins mettent chacun un peu leur sono.
À l'extérieur.
À l'extérieur. Mais du coup, deux magasins peuvent mettre deux musiques en même temps.
Ouais, non, c'est vraiment la musique forte.
Et on entend plusieurs musiques en même temps. Ouais. Mais ils le mettent fort, hein, chacun okay met en même temps. Donc dans
c'est
la rue, ça peut
de...
parfois être.
Ouais.
Wow.
Ok. Je reviens un tout petit peu en arrière. Le 11 avril 2024, sur votre Insta, justement, vous faites un bilan des 6 mois. 4856 km pédalés, 11 jours en Uruguay, 78 jours en Argentine, 41 jours au Chili, 33 en Bolivie et 21 au Pérou.
Ouais, en fait, moi, j'avais des petits carnets dans lesquels je notais tout. Et chaque jour, je notais où on avait dormi, combien de kilomètres on avait fait.
Trop bien.
Et bon, après, je raconte ma vie, mes peines et mes joies. Et du coup, je faisais mon petit calcul au fur et à mesure des kilomètres et tout. Donc ouais, ça nous a permis d'avoir un compteur plus ou moins réel au
et
fur et à mesure.
Avant que vous nous racontiez les tout derniers kilomètres, parce que bah, pour raconter un voyage d'un an, ça passe vite une heure et on est sur la fin de cette émission, pas tout de suite, mais quelles justement les émotions, qu'est-ce qu'on ressent tu disais, on était différents aussi à la fin. Quelles ont été les différentes émotions au long de ce voyage?
Moi, je trouve que les émotions, elles sont décuplées tout le temps. C'était des ascenseurs émotionnels pour ma part. De base, je suis sensible, mais alors là, c'était... Vous pouvez vivre les larmes, la joie, le rire, tout en quelques heures parfois. C'est vrai que l'effort me coûtait beaucoup. Et du coup, pédaler, parfois, c'était... J'en pouvais plus, quoi. Donc, je craquais complètement. Et juste après... Bah, on était face à un paysage incroyable et du coup là c'était, je pleurais presque de joie en disant c'est si beau, je suis trop contente d'être là. Mon Clément lui était toujours,
moi j'étais paisible,
toujours paisible, toujours stable, toujours la force tranquille. Donc on s'est bien équilibré là-dessus aussi et bravo à toi de m'avoir supporté dans mes émois. Mais ouais, les émotions sont fortes, parfois on a froid, on est fatigué, puis on est tout le temps ensemble aussi, donc humainement c'est une expérience aussi. Même dans l'attente, tout va.
C'est vrai que, en fait, on peut avoir des peurs, imaginer, des peurs de l'inconnu, de savoir, de se poser plein de questions, mais sur le moment du voyage, c'est vrai qu'on se posait plus trop de questions, enfin, il n'y avait plus pas trop de problèmes. Et, alors que notre problème principal, c'était de savoir quand même où est-ce qu'on allait dormir le soir, donc qui est en soi un gros problème, si on. Parce que tous les jours, on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir le soir.
L'incertitude.
Mais en réalité, ça ne posait pas de problème.
Non.
Ça ne faisait pas peur. Et c'est marrant que ça, c'est une sorte d'habitude. D'habitude, on prend vite l'habitude pendant le voyage. Là, j'ai presque envie de dire, peut-être que j'aurais repeur aujourd'hui de repartir, dans le sens, ça... Mes craintes à l'instant, et je les aurai de nouveau. Mais sur place, après, tu n'as plus de peur.
En fait, on s'habitue à tous les niveaux, physiquement, mentalement. Je trouve que très rapidement, on va s'habituer à, par exemple, avoir très peu de vêtements, à dormir dans une tente, à se lever, à ranger ses affaires. Tous les jours, on rangeait nos affaires, on ouvrait nos sacs, on fermait nos sacs.
À manger des pâtes tous les
jours. À manger des pâtes presque tous les jours de notre vie pendant 11 mois. C'était incroyable. Mais oui, c'est vrai qu'on s'habitue très facilement, en fait, le corps humain, c'est assez fou.
Et dans les émotions positives, des découvertes de paysages et des trucs qu'on, comme tu disais, où tu dis « waouh ».
Ouais, non, c'est vrai, des émotions très fortes. Et je trouve que le vélo aussi, c'est un espace de pensée qui est trop chouette, parce que pour le coup, on était ensemble tout le temps, mais quand on pédalait l'un derrière l'autre la plupart du temps. Et du coup, c'était des heures de penser avec soi-même, quoi.
Ouais, vos moments à vous.
Et donc ça, c'est en ça aussi, je pense, où on a pas mal cheminé, c'est qu'on avait un espace de pensée illimité face à des paysages exceptionnels. Et du coup, ça a permis plein de réflexions personnelles, je pense.
C'était quand même une année de contemplation et d'émerveillement de façon globale. Donc, on avait quand même pas beaucoup de problèmes, à part, comme on disait, retrouver à... se loger, mais...
Et puis finalement, comme ça roulait tout seul, vous étiez peut-être moins soucieux après coup de
ça comment roulait pas tout seul, hein.
Ah ouais.
C'était pas électrique, les vélos, ils étaient pliés.
Alors,
pas
moi, j'avais une option un peu super top, c'était Clément qui me poussait quand je
parlais pas du vélo, mais ça, je parlais du... ou dormir le soir.
Oui,
pardon.
Oui,
c'est vrai que...
Il
y avait de quoi...
Sinon, c'était les cuisses.
mais c'est vrai que je me souviens de moments vraiment d'émerveillement et face à des paysages en vélo, et vraiment là c'était un bonheur absolu,
fortes.
Juste de se dire ah là là, je suis dans un endroit extraordinaire, et j'ai la chance de traverser ces endroits là très sauvages en vélo, et bah, c'est difficile à décrire. Hein,
comme, ouais, mais beaucoup de gratitude, comme, je pense, en termes d'émotion. Et on a fait aussi beaucoup de trek, et là, on a vu des paysages incroyables, vraiment. Et on était seuls, souvent, au milieu de nulle part. Et il y a aussi ce truc de se dire, ouais, je suis tout seul au milieu de tout
je
ça.
Suis si petit.
Ouais, je suis
petit, une petite chose.
Et tellement chanceux de pouvoir voir tout ce qui m'entoure, quoi.
Trop cool. Ouais. Est-ce qu'on peut parler peut-être de potentielles découvertes humaines et culturelles que vous avez pu faire là-bas ?
Oui, bah, découvertes humaines, c'est clairement ce qui a dessiné notre voyage. Franchement, on a fait des rencontres magiques. Et à chaque fois, c'était des rencontres improbables qui nous amenaient à des moments super top, notamment en faisant du stop. On a rencontré des gens tellement gentils qui nous ont accueillis chez eux. On s'est retrouvés parfois. Une fois, on était à l'anniversaire de la tante. Je sais pas quoi. Et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? On n'a rien à faire ici. Il y a toute la famille. Et ils nous offraient des gâteaux, des boissons. Et ils nous invitaient chez eux. On dormait chez eux. Et voilà, des moments on vit que quand on sort un peu de sa zone de confort, quoi. Et après, niveau culturel, j'ai rien qui me vient à l'esprit là tout de suite à part le maté.
Ah bah si, quand même.
Clément, vas-y.
Non, mais c'est y a toute cette culture andine, donc qu'on retrouve de la Bolivie jusqu'à l'Équateur, on va dire Bolivie, Pérou, Équateur. Et alors ça va de des habits où là on passe la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, et là tout de suite on voit les femmes, les choletas, qui sont les habits traditionnels de femmes en Argentine, avec les grandes jupes à volants, les chapeaux melons noirs
et
les tresses, exactement. Et donc tout ça, ça va avec une culture. Il y a cette culture du marché. On a passé beaucoup de temps sur des marchés et à manger. Le midi, en fait, on mangeait donc l'almuerzo, qui est le déjeuner, ou qui est avec la soupe. Et puis après, le plat principal, donc c'est dans la rue ou dans les marchés, c'est des choses assez simples.
C'est vrai que la gastronomie, pour le coup, c'est assez identitaire en fonction des lieux. Et dans toutes les Andes, il y a ce modèle un peu du marché avec souvent les légumes qu'on va retrouver, les haricots, les pommes de terre,
Le manioc.
Le manioc.
Et
la viande.
Voilà, donc souvent.
Encore des pâtes.
Souvent, c'est les femmes qui sont derrière les étables pour vendre ça, préparer et vendre ça. Et bon, on a parlé aussi de musique, hein, beaucoup de musique, énormément de musique.
Je pense au carnaval, moi, parce qu'on est tombé un peu par magie. On avait oublié, en fait, que c'était le carnaval, et on était au nord de l'Argentine à ce moment-là. Et en fait, le carnaval en Bolivie, surtout le continent, mais surtout au nord et dans les pays andins, c'est très, très fêté. Enfin, ça se célèbre réellement. Il y a plein de mythes autour de personnages qui descendent de la montagne, etc.
Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et nous, on s'est retrouvés au milieu de tout ça sans avoir imaginé ce qui se tramait. Et encore une fois, des moments complètement improbables où on se prenait de la farine, des confettis sur la tête, sauf que nous, on était à vélo, on n'avait pas de douche, donc on était sales. Et on se déplaçait d'endroit en endroit et on se retrouvait au milieu d'une fanfare avec des gens qui faisaient la fête. Ça fait la fête beaucoup quand même, hein, en Amérique du Sud. Mais c'est toujours des fêtes très conviviales avec les enfants. Il y a tout le monde, en fait, qui c'est vraiment célébrer la joie. Et plein de moments, pendant le carnaval, on s'est retrouvés dans des endroits... De joie, et on n'avait pas du tout imaginé qu'on allait vivre ça. Pareil, le matin en partant, nous on cherchait une auberge et on se retrouvait à boire du vin avec des fruits macérés, à être complètement saoul avec tout le village, alors que c'était pas trop ce qu'on avait en tête à l'origine. Ouais.
On va se faire une petite pause musicale, on va écouter Louise, dis-moi.
Zapateando, huyayay.
Top, on écoute ça.
Zapateando por aquí, zapateando por allá,
zapateando, zapateando por aquí,
zapateando, zapateando por allá.
Ces derniers moments de l'émission, j'ai une question à vous poser. Quel est votre meilleur souvenir l'un et l'autre? Ça va être dur, hein, je sais, c'est un voyage d'un an, c'est terrible. Mais quel est votre meilleur souvenir?
C'est un petit peu intime. Mais du coup, Clément, il m'a demandé en mariage pendant le voyage. Donc ça, c'est quand même un très beau souvenir. Et puis c'était dans une ville de Colombie qu'on affectionne particulièrement, où on a passé des jolis moments. Après, franchement, il y en a eu plein des beaux moments. C'est vrai que le fait d'avoir rencontré cette équipe de copains, là, on a passé des moments très heureux. Et,
ouais, très festifs.
Ouais. Très festifs. Et personnellement, les randonnées, c'est des moments qui m'ont marqué aussi parce qu'on a vu des paysages que j'aurais jamais imaginé voir. Notamment, je pense à un paysage en particulier où il y avait des icebergs face à nous. Enfin, c'était incroyable, avec un coucher de soleil magique. Et la marche, c'était encore un autre format que le vélo. Et du coup, c'était des moments encore plus lent et encore plus dans la contemplation. Et la croisière sur l'Amazon aussi, pour moi, ça a été un moment fort parce que j'ai vraiment vécu ça comme la digestion du voyage.
Alors justement, on en parlait tout à l'heure, on peut peut-être dire quelque chose, même s'il ne reste pas longtemps, dire quelque chose là-dessus.
Ouais, sur
du
le,
coup,
ouais, le
votre, votre clôture de ce voyage, c'est la croisière sur l'Amazon.
Toi, ouais. T'avais peut-être
alors,
un autre.
La croisière, c'est peut-être un grand mot, hein, parce que c'était
on dit
pas
croisière.
La déambulation.
Il n'y avait pas piscine et bar dans le bateau, mais oui, c'est des bateaux qui traversent, qui descendent l'Amazon, que prennent. Il y a des personnes qui prennent ça pour aller au boulot. Hein,
qui travaillent ou des familles qui vont voir leurs proches.
On était quelques touristes, on va dire, non locaux, qui prenaient ce
on
ce bateau-là.
Était les seuls européens. Je pense que les autres, c'était colombiens, argentins, mexicains.
Ouais,
et en fait, les bateaux, ils sont divisés en plusieurs étages. Et à l'étage, il y a la zone des hamacs. Selon les bateaux, parfois c'est aussi sur plusieurs étages. Et donc on avait acheté des hamacs avant de partir. Et t'accroches ton hamac à un endroit. Donc les endroits sont numérotés. Tu choisis ta petite zone. Et après, c'est la vie libre sur le bateau. Tu peux jouer aux cartes avec tes voisins. Alors l'heure de la nourriture, toujours très attendue. La nourriture nous a menés pendant toute cette année. Et juste la lenteur et la contemplation de ce fleuve qui, à certains endroits, fait des kilomètres de large. Donc, assez impressionnant aussi. On a vu des dauphins roses dans l'Amazon.
C'était un moment, en effet, sur la fin du voyage, un moment presque encore plus lent où là, on n'avait pas à pédaler. Donc là, on était vraiment juste à, soit dans notre hamac, à lire, à dormir ou à manger ou à regarder les rives du fleuve. Et du coup, ça a pu permettre un peu de digérer en effet le voyage et à se remémorer un peu les bons souvenirs. Et c'était très agréable, ça a duré une dizaine de jours. C'était une bonne façon de terminer le voyage. Alors après, on a repris un petit peu le vélo pour...
On est arrivé en Guyane et donc ça, c'était Guyane, aussi particulier d'arriver en France sans être sur la métropole, donc d'avoir le panneau France au milieu de l'Amazonie. Ouais. C'était aussi autre chose avec des singes qui criaient autour de nous. On est en France, mais en même temps, on ne se sent pas trop dans la France qu'on connaît.
Et après, on a croisé quelqu'un avec une baguette.
Et là, c'était la joie immense.
Mais réellement, en plus. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est bon.
Et on est reparti de là, ouais. Mais toi, tu n'as pas dit ton meilleur souvenir, Clément?
Moi, mon meilleur souvenir? Mais c'est vrai qu'il y a cette demande au mariage, quand même. Et juste avant ça, en plus, on a passé une journée dans une finca de café. Et voilà, c'était très agréable. On a fait une belle rencontre aussi avec un petit producteur de café. Et j'ai un très bon souvenir de ce moment-là où on a découvert un peu tout processus de fabrication, de cultivation du café.
Merci beaucoup de nous avoir raconté, même si c'était rapide, de rassembler une année de voyage extraordinaire à vélo dans l'Amérique du Sud en une heure. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre voyage.
Merci Cynthia de nous avoir invités.
À la prochaine.